des églises qui souffrent comme n'ayant pas de berger. Et c'est triste. Et je loue le Seigneur pour la direction de l'église, les anciens avec lesquels j'ai le privilège de travailler depuis des années. Je loue le Seigneur, je vous le dis, je loue le Seigneur. Et frères et sœurs, je vous remercie pour vos prières, que ce soit pour moi, que ce soit pour la direction de l'église. Que le Seigneur nous protège quand on prêche, quand on prie les uns pour les autres, c'est important. La prière, c'est presque le souffle du chrétien. C'est important. Quand on prie, l'Éternel entend. L'Éternel répond. Papa prend soin de nous. Et je loue le Seigneur pour ça. Et on va puiser ce matin dans la parole de Dieu. Et on va aller dans Genèse chapitre 22, verset 20. Genèse 22, verset 20. Alors, on est dans Genèse. Isaac est né, pendant que vous cherchez votre passage, Isaac est né d'un papa et d'une maman très âgés, au point que c'était Sarah croyait pas. Et elle manquait de foi, comme quoi qu'elle aurait un fils, comme Dieu lui avait promis. Et j'ai passé toutes sortes de péripéties, on reviendra pas là-dessus. Mais cet enfant est né, et pas longtemps, quelques années après, Dieu va voir Abraham et lui dit, « Je veux te mettre à l'épreuve, je veux que tu me sacrifies ton fils sur un autel. Je veux voir si tu préfères ton fils, ton unique, ou si tu me préfères moi. » Et comme vous connaissez l'histoire, c'est juste l'histoire du message précédemment qui a été prêché à Pâques, Abraham est monté sur le mont, était prêt à sacrifier son fils parce qu'il savait que Dieu accomplit ses promesses et il avait promis à Abraham une descendance nombreuse par ce fils. Et il savait que Dieu pourvoirait d'une manière ou d'une autre, par une résurrection d'Isaac ou quoi que ce soit, à une descendance, parce que Dieu accomplit ses promesses. Et bien entendu, vous savez ce qui s'est passé. Au moment où Abraham est sur le point de tuer son fils, l'Éternel lui dit, « Attends, arrête, je sais que tu m'aimes plus que ton fils. » Et il y avait un bouc pris dans les broussailles, et c'est ce bouc qui a été égorgé et offert en sacrifice à l'Éternel au lieu d'Isaac. Mais là, on arrive dans un passage où on commence à parler d'un sujet un petit peu différent, mais qui a cause et qui va mettre en cause Isaac. Prions, s'il vous plaît. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous enseignes. Merci parce que lorsque nous la lisons, c'est toi qui nous parles et il n'y a pas de hasard. Pourquoi nous avons cela en main, Seigneur? Pourquoi nous avons ces récits-là en main? Parce que tu veux nous enseigner des choses importantes à mettre en pratique dans nos vies. Enseigne-nous ce matin, Seigneur, par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Suite à la naissance d'Abraham, suite à ce sacrifice, comme je viens de dire, Abraham reçoit un courriel. Et c'est ce qu'on va lire ici. Chapitre 22, verset 20. Courriel à Abraham. Bon, c'est pas tout à fait écrit dans votre version, mais c'est à peu près ça que ça veut dire. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milca aussi enfanté des fils en accord, ton frère, Uth, son premier-né, Buz, son frère, Kenuel, père d'Aran, Kézed, Azo, Pildash, Jidla et Bethuel. Et Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les huit fils de Milca, que Milca a enfanté à Nakhor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Réuma a aussi enfanté Tébac, Caan, Tahash et Maka. Bon, comme je dis toujours, si vous cherchez des noms pour vos petits-enfants, vous les avez là-dedans, là, c'est merveilleux. Vous êtes grillés en masse avec ça. Qu'est-ce que ce passage-là a à nous dire? Écoutez, le frère d'Abraham, Nakhor, est resté dans la terre des ancêtres d'Abraham et de Nakhor. C'est à des lieux et des lieux. Et malheureusement, dans ce temps-là, les courriels, les textos, le téléphone, et il y avait peut-être les pigeons voyageurs qui devaient exister, mais ça n'existait pas dans ce temps-là. Puis peut-être c'est venu par un pigeon voyageur. J'en sais rien, c'est pas marqué. Mais n'empêche qu'ils sont séparés d'une distance incroyable pour ce temps-là. Et Abraham reçoit un rapport, et c'est le seul temps qu'on entend parler d'un rapport de son frère sur la santé de son frère, sur n'importe quoi qui arrive dans la vie de son frère. Mais suite à la naissance d'Isaac, on en reçoit un rapport, puis c'est dit, voici, Milka a aussi enfanté Anakor, ton frère. Et c'est intéressant, il donne toute la généalogie et il donne un nom en particulier, parce que Bethuel a eu d'autres enfants, mais Bethuel a eu Rebecca. Et Rebecca va avoir une importance capitale dans la lignée et la postérité d'Abraham. Pourquoi cette nouvelle de si loin? Ben, vous le saurez la semaine prochaine. Parce que ce passage-là de 4 versets, 20, 21, 22, 23, 24, 5 versets, va avec le chapitre 24. Donc, moi, je vous ai fait l'introduction à la semaine prochaine. C'est ce que vous saurez la semaine prochaine. Chapitre 23, lisons les 20 versets du chapitre 23. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait une petite introduction. Là, on rentre dans un autre chapitre, dans un autre récit. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirja Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. « Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays et devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi, « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Éphron, fils de Tsoar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre la valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. » Éphron était assis parmi les fils de Heth. Et Éphron le Héthien répondit à Abraham, en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ. » Et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla à Éphron en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. Et Éphron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 sicles d'argent. Qu'est-ce que cela entre toi et moi? Enterre ton mort. Abraham comprit Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit, en présence des fils de Heth, 400 sicles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ d'Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes les limites alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham, aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Je dois enterrer Sarah. Sarah est morte. Dans l'habitude des gens de ce temps-là, ils devaient enterrer les morts dans l'endroit sépulcral, les cavernes où on enterrait nos ancêtres, où sont nos ancêtres. Mais au chapitre 12, allez-y pas au chapitre 12, Dieu a parlé à Abraham et lui a dit, « Va-t'en de ton pays, va-t'en de la terre de tes ancêtres, va-t'en dans le pays que je te montrerai. » Et Abraham, par la foi, a suivi ce que l'Éternel lui a demandé et a quitté le pays de ses ancêtres et s'en va dans le pays que Dieu lui désigne. Et présentement, il est dans quel pays? En Canaan. Et c'est mentionné plusieurs fois. Il est dans le pays de Canaan. Au verset 4, il dit, « Donnez-moi la possession ou donnez-moi la propriété d'une place où enterrer mon mort d'un sépulcre. » C'est ça qu'il dit au verset 4. Ils sont assis, on voit ça au verset 10, ils sont assis à la porte de la ville. Et c'est là, à la porte de la ville, qu'on agit comme cour pour les procès. C'est là que sont les jurys, c'est là que sont les notables, c'est là qu'on signe des affaires, qu'on fait du business, qu'on vend et qu'on achète devant les témoins qui sont là. C'est une place super importante et c'est là que se font toutes les négociations. Il y a trois négociations. Versets 4 à 6, « Donnez-moi un sépulcre, que dit Abraham. » Et ils répondent, « Mais prends ce qu'il te veut, on te le donne. Prends, choisis ce que tu veux, on te le donne. » Au verset 7 à 11, « Dites à Éphron, on devient plus précis, de me céder, ou encore dans une autre traduction, ça pourrait être de me vendre, la caverne de Macpéla. » Ça devient plus précis. Et au verset 12-16, la troisième négociation, « Donnez-moi-le à prix d'argent, je suis prêt à l'acheter. » Et finalement, il l'achète pour le montant que Éphron lui a dit. Ce n'est pas l'habitude, dans ce temps-là, quand quelqu'un te suggère un prix, d'accepter le prix. L'habitude de ce temps-là, c'est de « bargainer », de faire du « bargain ». Tu le vends 400 piastres, ouais, mais écoute, j'ai rien que 200 piastres dans ma poche et on négocie. N'oubliez pas, on est dans le coin des Juifs, là. Je ne veux pas être méchant, mais on négocie. Ce n'est pas ce que Abraham fait du tout. Et on va voir un peu plus tard pourquoi. Pourquoi cet endroit précis avec Éphron, la caverne de Macpéla, près de Mamré? Regardez le verset 17. Le champ d'Éphron à Macpalé, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est. Et juste un peu plus tard, au verset 19, quand il dit qu'il a acquis ce champ et qu'il enterre sa femme dans la caverne de Mamré, dans le champ de Mamré, dans le champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré. C'est intéressant, si on allait au chapitre 14, verset 13, prenez ça dans vos notes, le temps passe, puis Fritzia m'a volé un peu de temps. Donc, je l'aime quand même. OK? Si vous allez au chapitre 14, verset 13, on nous montre que Abraham réside dans les chaînes de Mamré. Et il s'installe dans ce coin-là et il veut avoir une propriété sépulcrale à côté d'où il habite. C'est pour ça que toutes ces négociations-là ne sont pas faites au hasard. Et tranquillement, on voit la progression dans les négociations. Abraham sait où il veut aller. Il veut aller à côté d'où il s'est installé. Intéressant de voir ça. Que pouvons-nous dire de cette négociation? Abraham est un homme courtois, un homme poli, un homme respectueux. Et ça, c'est des leçons que nous, on peut apprendre. Il dit lui-même, « Je suis étranger parmi vous, sans résidence, sans propriété. Je suis un étranger parmi vous. » Et comme étranger, il est poli, courtois, respectueux. Verset 7, « Il se prosterne devant le peuple du pays. » Écoutez bien, quand il est allé là pour négocier à la porte de la ville, il n'était pas devant tout le peuple du pays, mais il était devant les représentants du peuple du pays, soit les notables, les gens, entre guillemets, importants. OK? C'est pareil quand on vit, quand notre gouverneur général, OK, va à l'extérieur et qu'on salue le gouverneur général, on salue le peuple que représente le gouverneur général. C'est la même chose ici, il se prosterne devant le peuple du pays. Et ça, on le voit au verset 7 et il le refait au verset 12. Abraham est un homme courtois, poli, respectueux, et il comprend au verset 16 et il achète. Il ne fait pas juste profiter du fait qu'ils lui ont dit « on va te le donner ». En réalité, Abraham n'oublie pas la promesse que Dieu lui a faite. Et Abraham, en achetant, il prend possession d'une propriété. Et il devient propriétaire terrien ou en Canaan, dans le pays que Dieu a promis. Un homme aussi qui est respecté. Abraham est un homme respecté. Au verset 6, il dit « Écoute-nous, mon Seigneur. » Abraham, c'est pas un deux de pique. C'est pas quelqu'un d'insignifiant. Abraham est un homme qui est écouté et un homme qui est respecté lui aussi, donc un homme respectable aussi. « Écoute, mon Seigneur. » Et un peu, juste dans le même verset, après, il dit « Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. » Est-ce que nous, comme enfants de Dieu, ceux qui travaillent avec nous, ceux qui sont à l'école avec nous, nos voisins, peuvent dire de nous « Dominique, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. » J'ai pris mon nom, OK? J'ai pas pris le vôtre, là. Mais est-ce que nos voisins peuvent dire ça de nous? Ou bien on est tellement haïssables qu'ils nous appellent un ange de Satan parmi nous? C'est les deux extrêmes. Abraham est appelé un prince de Dieu, un homme de haut rang que Dieu a élevé, un homme sous la faveur divine, un homme qui témoigne que son grand Dieu, c'est l'Éternel. Pour que eux le sachent, faut qu'ils l'aient entendu, faut qu'ils l'aient vu. L'Éternel est vivant dans la vie d'Abraham. Un témoignage de vie d'Abraham par ses actions et par ses paroles. Dieu bénit, comme promis, Abraham. Abraham est grand, Abraham est riche, Abraham a beaucoup de troupeaux et beaucoup de serviteurs. Luther a fait remarquer en parlant d'Abraham, il parle dans ce passage-là, il dit, voici les bonnes manières d'un homme de Dieu. Les bonnes manières d'un homme de Dieu en parlant d'Abraham. Des versets 17 avant, Abraham s'installe à Canaan. Il a un désir ardent que Sarah repose sur la terre promise que Dieu lui a promis. Intéressant de voir qu'il prend possession et ça va devenir le sépulcre pour lui et ses descendants. Et on va voir un petit peu plus loin pourquoi. Intéressant de voir qu'il prend possession du pays, pas parce qu'il veut l'acheter, mais parce que Dieu lui a dit que ça serait le pays pour lui et ses descendants. Et il en prend possession. Il voulait que ses descendants voient qu'il croyait aux promesses de Dieu. « Quand tu es enterré sur place, j'ai pris ma place. » Ça, c'est ma place où je veux être enterré. Je veux que les autres... je ne pense pas qu'il disait, il pensait comme ça. Mais en réalité, les autres l'ont vu. Le tombeau d'Abraham, notre ancêtre, notre patriarche, n'est-il pas parmi nous en Canaan? Ce tombeau en est un témoignage. Le titre de propriété d'Abraham s'appuie sur les promesses de Dieu. Dans la caverne de Macpéla furent enterrés Sarah, Abraham, Isaac, Rebecca, Léa et finalement Jacob. On voit que Abraham est un homme de foi. Et on le voit encore beaucoup plus précisément lorsqu'on lit dans le Nouveau Testament, et tournez avec moi dans Hébreux chapitre 11, et dans tout le chapitre 11, l'histoire d'Abraham est celle qui prend le plus de place. L'histoire d'Abraham commence au verset 8, se termine au verset 19. 11 versets pour raconter ce qui commence au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham. Et tout le long, on voit la foi d'un homme qui a tout quitté pour aller vers une terre étrangère que Dieu lui avait promis. Et les versets 13 à 16 sont intéressants. OK? Juste avant les deux versets auparavant, c'est juste par la foi qu'Abraham, avancé en âge, a cru, OK, fut rendu capable d'avoir une postérité. Puis au verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues de loin et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Intéressant de voir que même dans Hébreux 11, il répète ce que Abraham disait lui-même. Je suis un étranger et voyageur sur la terre. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ils sont morts dans la foi. Abraham est mort dans la foi sans jamais posséder le pays. Okay? Il ne possédait que le champ et la caverne de Macpéla. Il n'avait pas chassé les peuples pécheurs du pays. Ils étaient encore des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Verset 7, « Mais Abraham, par la foi, non seulement voulait suivre ce que Dieu lui avait dit et amener sa postérité sur un terrain où il vivrait, mais il voyait aussi une cité beaucoup plus loin, qui est de loin la meilleure. Il nous prépare une cité. Comment pouvons-nous appliquer cela? Depuis Adam et Ève, Dieu a promis une réconciliation avec lui. Toutes les prophéties que nous avons vues, accomplies dans le livre de Genèse, Dieu l'avait prophétisé. Toutes les prophéties qui parlent de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament ont été accomplies quand Christ est venu sur la terre, humblement, dans une mangeoire à bestiaux, vivre humblement pour finir injustement, mourir sur une croix pour prendre ta place, pour prendre ma place. Ressusciter au bout de 3 jours, comme il l'avait dit. Être apparu à plusieurs, afin que plusieurs puissent témoigner que Jésus-Christ est vivant. C'est ce que nous avons prêché la semaine passée à Pâques, ou il y a 2 semaines. Jésus est vivant. Pourquoi est-ce que Christ est mort sur la croix? Afin que de prendre la condamnation du péché qui repose sur toute épaule d'un être vivant, un homme ou femme, depuis Adam et Ève. Christ a pris la condamnation du péché afin que nous puissions passer l'éternité dans la cité céleste que Dieu a préparée d'avance pour ses enfants. Nous la voyons de loin, cette cité. Est-ce que tu as ta place dans cette cité? Abraham a pris une place et il l'a achetée à prix d'argent en Canaan. Nous avons une place qui est prête pour nous, achetée au prix du sang. La seule chose que nous devons faire, c'est reconnaître que nous ne pouvons rien faire sans Christ. Sommes-nous des hommes, des femmes de foi, comme Abraham, comme Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob, et ainsi de suite? Et Dieu a accompli sa promesse et il leur a donné le pays de Canaan. Comme Dieu va accomplir sa promesse, et il va nous donner une place à ses enfants qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Que l'Éternel fasse de nous des hommes et des femmes de foi. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Amen.
Amen.